présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Le temps passe. La guerre continue. Achille décide de se battre, puisque son heure est venue. Il entre dans la bataille comme un fou et fait les ravages. Les têtes tombent. De voir Achille dans la mêlée, cela donne du courage aux Achéens. Et puis Hector a été tué. La guerre est une horreur. Avec le corps à corps, c'est terrible. Achille se démêle comme un fou, furieux, et en même temps comme un léopard, avec de la souplesse. Les nefs sont sauvés. Les Troyens, grâce à Achille, reculent et s'approchent de la ville. En bas des remparts. Disons, dans un passage pour aller à la porte de la ville. Il court comme un fou à la porte. Et ça cogne sur la porte avec son poignard.
Il essaye. C'est de passer l'alarme à travers l'ouverture du battant de la porte. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. Oui, la porte s'ouvre. Et en s'ouvrant, elle le fait tomber à terre, à la renverse. Ce qui lui a fait lâcher l'alarme de son poignard. Et sort de la ville, le char de Paris. Achille se lève d'un coup et se met à courir vers son char. Il monte sur son char pour faire face à Paris. Les deux hommes se font face. Menaçant sur leur char. Et foncent l'un sur l'autre. Les deux chars se sont cognés. Et tombent. Ce qui fait tomber les deux combattants. Ils se redressent. Paris a à la main la lance. Achille aussi. Mais en voyant Paris foncer sur lui avec sa lance, il a comme une illumination. Oui, il a comme une illumination. Il sait que le coup fatal va venir de ce pic. Alors, il se met à courir sur le sable autour de la cité. Il est en sueur. Il court, court, court. Paris lui court après. Achille a soif, chaud. Le soleil lui fait mal aux yeux. Il se met à courir, courir comme un fou. Le vent se lève un peu. Achille ferme les yeux. Achille ferme les yeux en courant parce qu'il veut mourir comme un soldat. Il attend. Il a reçu une douleur au talon. Avant de tomber, fait un geste de la main au ciel, comme s'il souhaitait faire passer par les siècles son fuite de vie ou son arme. Une main vers le ciel qui est sorti de l'eau prend le fluide d'Achille et l'envoie un jeune homme se démêler dans l'eau. Il étouffe, suffoque. mais il réussit à aller jusqu'au bord du lac. Sorti de l'eau, nu, essoufflé, mais beau comme Achille. Le soleil illumine son visage et son corps. Tombe la tête la première sur l'herbe épuisée. Il entend que l'on s'avance vers lui. Lève la tête et voit son ami près de lui qui se penche. Et lui demande, ça va, Cliff? Cliff se met sur le dos, lui dit, oui, un peu essoufflé, mais ça peut aller. Le garçon lui dit, j'ai eu peur tout à l'heure, j'ai cru que tu allais te noyer. Non, ça va, Didier. Didier s'assoit près de lui. C'est un grand garçon, blond, yeux bleus, visage très doux. Il est très mince, presque maigre. Didier s'assoit près de lui. C'est un grand garçon, blond, yeux bleus, visage très doux. Il est très mince, presque maigre. Il porte un caleçon rouge. Ils ont tous les deux 15 ans et se ressemblent. Il lui dit, te moque pas de moi. Mais j'ai toujours eu peur de nager. C'est une peur absurde qui me vient de mon enfance. La première fois que ça m'a pris, c'est lorsque j'ai vu mon ami se noyer. Et puis j'ai peur de l'eau. Mais j'essaye de m'en débarrasser. Mais aujourd'hui, j'ai cru étouffé. J'ai paniqué, failli crier à l'aide. Hein? J'ai levé le bras en l'air lorsque j'enfonçais. J'étouffais, plus d'air. Mais lorsque j'ai eu le bras en l'air, j'ai senti à travers mon bras et descendait dans tout mon corps et mon âme une force étrange qui me fait remonter. Surmonter ma peur, sorti de l'eau plus fort, comme si j'étais un autre, comme si mon mal n'était plus. C'est comme si je renaissais en un être plus fort. Il regarde sa main droite. Mais sans rien, mais se sent bien. Didier lui dit, tu n'auras plus peur de l'eau. Ton corps est devenu assez fort pour la dominer et te sauver. Tu es beau comme un dieu. Ta beauté est parfaite. Mais tu dois avoir une paille comme Achille et son talon. Cliff se soulève et lui dit, je me sens invincible, fort. J'ai reçu une force qui est entrée en moi. Tu ne peux pas comprendre. Didier lui dit, tu vois un peu trop les feuilletons de M6. un vide qui entre en toi en levant la main au ciel. Puis je lui dis, ne ris pas, je ne dis pas que c'est vraiment un fluide, mais en levant le bras, j'ai senti une force qui entrait en moi et je suis devenu plus fort. Peut-être est-ce simplement parce que j'ai forci, j'ai 15 ans, je ne sais pas, c'est comme ça. Il rit, il dit, bien sûr toi, ton fluide est déjà rentré depuis longtemps, tu es fort. Didier lui dit, non, je ne le suis pas. Et tu le sais bien, je suis d'une timidité terrible. J'ai peur des gens, de l'amour. Je ne suis pas comme les autres. Il m'a fait mal étant enfant et ma vie a bousculé. Moi, je n'ai pas reçu de fluide. Comme toi. Bon, assez parlé. Nous allons nous habiller et aller à l'hôtel. Ils vont vers leurs vêtements posés dans l'herbe et s'habillent. Ils sont en Savoie, Haute-Savoie, au lac de Montrion. Pour leurs vacances d'été, leur famille leur ont permis de faire un voyage en Savoie pour leur apprendre à se débrouiller et aussi pour trouver un peu de fraîcheur. Parce que depuis quelques années, l'été est très chaud en France. Il y a des poussées de chaleur jusqu'à 45 degrés. Dans le pays noir de Loire, où ils habitent, il fait très très chaud et lourd. Leur périple en Savoie de 2 mois les a menés pour finir leurs vacances au lac de Montrion. Ils y sont restés 2 jours. Ils habitent tous les deux un petit bourg, le Vire-Ditou, en Touraine, en Pays de Loire. Ils sont amis d'enfance. Arrivés à leur hôtel, qui est au bord du lac, et qui ressemble à un grand chalet, entre dans l'hôtel. À l'entrée, avec banque, porte vitrée dedans la salle à manger. Des escaliers à gauche donnent aux chambres. T'es décoré chalet. Oui, décoré chalet. À la banque se trouve une femme mince, élégante, en robe beige, cheveux châtains. En les voyant, elle leur demande. « Vous désirez prendre votre petit déjeuner ?» Et je lui dis, « Oui, madame, et après nous partons. »« Bien, messieurs. » Et les deux jeunes gens la laissent. Ils vont au premier étage, à leur chambre. Ils ont une chambre pour deux. Avec 2 lits. Elle est assez grande et coquette. Des frisettes au mur, rideaux blancs et rouges. La chambre n'a pas de salle de bain et on est obligé d'aller sur le palier. Mais c'est très agréable. Ils ont déjà préparé leurs valises qui sont à terre. Quoi dans la chambre? Ils se dirigent pour se changer. Le linge sale ira dans un sac spécial pour cet effet et les domestiques auront à laver. Après qu'ils se sont changés, ils vont à la salle à manger. Qui se trouve au rez-de-chaussée. Grande baie vitrée, et c'est une table près d'une baie pour voir le lac qui est si joli. Il y a déjà beaucoup de monde dans la salle à manger, des pêcheurs promeneurs. Cliff et Didier se sont mis l'un en face de l'autre. Une serveuse en tablier noir vient à eux. Elle est petite, maigre, dans les 25 ans. Cliff regarde le menu et lui dit « Une truite, des haricots verts et pour entrer une salade garnie. » Didier lui dit « La même chose. » La femme demande « Et pour les boissons ?» Cliff lui dit « Carafe d'eau. » La serveuse se retire. Didier dit à Cliff « Tu prends toujours la même chose au restaurant. » Cliff lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? J'aime le poisson. » En fait, assis en face d'eux, à une table seule, un vieux monsieur, grand, maigre, à cheveux grisonnants et des garnisses sur la tête, lunettes, métal et monture métal dorée, tête osseuse. Il porte un costume marron, chemise blanche et cravate marron. Il a l'air très distingué. Tout en mangeant, le monsieur ne cesse de regarder, de les regarder. Didier le voit et dit à Cliff, qu'est-ce qu'il a à nous lorgner ce vieux? Cliff dit, t'as fait une touche? Didier rit. Cliff soupire et dit, ça m'ennuie que les vacances sont finies. Nous étions très bien tous les deux. Nous allons retrouver le lycée, la routine. Didier lui demande, pas content de retrouver ta mère? Si, bien sûr. C'est pas elle qui m'ennuie, mais je ne sais pas. Disons, c'est moi. J'ai pris l'habitude de vivre différemment, de constamment voyager. Là-bas, je vais retrouver ma chambre, mes affaires, mon vélo, les livres, le lac. Je ne dis pas que je n'aime pas ces choses, mais je rêve d'autre chose aussi. Didier lui dit, je te comprends, mais ta mère est une femme formidable, belle, douce, dans le vent. Il lui dit, mais t'es amoureux de ma mère, ma parole. Je suis depuis toujours, mon vieux. Il rit et lui dit, je trouve que tu n'irais pas du tout en beau-père. Et moi, en beau-fils. On leur sert leur premier plat. Ils mangent de bon appétit. Durant tout le repas, le vieux monsieur ne cesse de les regarder. Il est vrai que ces deux jeunes garçons ont belle allure. Cliff a une belle tête avec les traits juvéniles, cheveux blonds, coupés courts, mais qui ondulent, yeux bleus, visage blanc légèrement ailé par le soleil. Il est grand, son ami lui ressemble, blond aussi, cheveux courts, tête ronde, yeux marrons, légèrement ailé lui aussi. Et mince. Cliff est habillé d'un pull marron et d'un pantalon beige. Didier a un t-shirt blanc et un pantalon marine. Didier dit à Cliff, ce vieux qui me regarde constamment comme ça, ça m'énerve. J'ai bien envie de lui dire deux mots. Cliff lui dit, c'est pas bien grave. Oui, mais ça m'énerve. Après le repas, en passant devant le vieux, monsieur, Didier s'arrête et lui demande « Oh monsieur, mais j'aimerais savoir pourquoi vous regardez constamment comme ça depuis tout à l'heure. » Le vieux monsieur lui dit « Pardonnez-moi, mais j'observais surtout votre ami.
je dois avouer, c'est que ce n'est pas très poli, mais c'est pour quelque chose de précis. Je m'appelle Monsieur de Jean-Jus. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Cliff dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons partir pour Chamonix prendre le train.
Monsieur Jean-Jus lui dit, n'avez pas de voiture. Et je vous mènerai. Cela ira plus vite que de prendre un taxi. Le temps qu'ils viennent, vous cherchez.
Les deux garçons prennent des chaises et s'assoient en face de lui. Cliff demande, comment savez-vous que nous n'avons pas de voiture?
Monsieur Jean-Jus lui dit, parce que vous êtes bien jeune et que je le sais.
Didier lui demande, dites-moi, pourquoi est-ce que vous nous regardiez tout à l'heure?
Monsieur Jean-Jus lui dit, parce que je suis écrivain et que vous me plaisez. J'adore les jeunes gens comme vous. Pour mes romans, j'ai besoin. De jeunes gens que vous. Vous savez, vous êtes là. Ce n'est pas par hasard. Je sais ce qui vous est arrivé. À vous, jeune homme. Vous vous êtes baigné dans le lac. Le lac est dangereux. Vous avez senti en vous quelque chose qui vous a donné, disons, un fluide qui vous a transformé et qui transforme votre vie. Maintenant, vous faites partie des nôtres et vous êtes peut-être celui que l'on attend.
Cliff soupire. Et gêné, lui dit, je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Monsieur Jean-Jules lui dit, vous avez sorti en vous quelque chose comme un fluide qui entrait dans votre corps. Lorsque vous avez tendu la main hors de l'eau pour appeler au secours. Hein, c'est bien ça.
Cliff lui dit, mais comment le savez-vous?
Jean-Jules lui dit, je fais partie de ceux qui savent. Bon, passons. Tout cela n'a pas d'importance pour vous. Mais vous verrez que votre vie va changer pour vous. Vous savez, le hasard n'existe pas. En tout cas, pour les gens comme nous. Et si vous êtes venu ici, c'est que vous deviez venir et que l'on vous y attendait.
Cliff lui demande, mais qui?
Eux, nous verrons, vous le saurez.
Et pourquoi est-ce que l'on m'attendait?
Cette voix. Pour ce qui vous est arrivé dans le lac. Rien de plus. Maintenant, votre destinée ne vous appartient plus. Elle sera écrite. Une fin a même été écrite. Je suis écrivain. Vous savez.
Il regarde sa montre. La gousset en or.
Et leur dit, il serait temps, c'est que je vous amène à la gare.
Ils se lèvent tous, M. Jean-Jules leur dit,
bon, je vous l'attends dans le hall d'entrée. Oui, dans le hall d'entrée.
Les deux garçons sont allés dans leur chambre prendre leur valise. Il dit, j'ai pas du tout envie d'aller en voiture avec lui. Il est complètement fou cet homme. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Cliff lui dit, il est un peu original. Même fou, mais c'est un écrivain, il doit rêver. Il lui dit, oui, mais il sait des tas de choses sur toi, ton accident tout à l'heure. Il lui dit, il a dû nous voir de loin. Et aborder une histoire. Il retrouve Monsieur de Jean-Jus dans le hall. Cliff et Didier sont à la banque pour payer leur séjour et repas. Elle prend son appareil portable, fait les comptes, leur donne le prix. Cliff lui donne sa carte qu'elle met sur l'appareil. Met un pouce pour les empreintes digitales. L'appareil dit oui et tape le compte de l'hôtel. Elle rend la carte à Cliff. Elle dit, Messieurs, bon voyage. Monsieur de Jean-Jules, vous restez ? Monsieur de Jean-Jules dit, oui, j'attends Jean-Pierre et Marc. À tout à l'heure. Elle leur fait, bien. Et ils sortent du hall. Monsieur de Jean-Jules mène les deux jeunes gens à sa voiture, qui est sur le parking de l'hôtel. C'est une vieille Rolls noire des années 1950. Un chauffeur est debout, habillé en chauffeur, costume noir. Il est blond dans les 25 ans. Il leur ouvre la portière arrière et prend les bagages pour les mettre dans le porte-bagages. Ils entrent dans la voiture. Cuir capitonné rouge, barre intérieure, chaîne IFI, téléviseur, ordinateur. Une vitre les sépare du chauffeur. Monsieur de Jean-Jus est au milieu entre les deux jeunes gens. Une fois que le chauffeur est au volant, Monsieur de Jean-Jus appuie sur le bouton pour faire descendre la vitre et dit « Armand, à la gare de Chamonix, s'il vous plaît !» Bien, monsieur. Et la glace remonte. Et la voiture s'est mise en route. Elle a quitté le lac, le chalet qui était en contrebas de la route. De Jean-Jules leur demande, vous désirez boire quelque chose ? Cliff lui dit, non. Didier lui dit, vous avez une très belle voiture de collection. Jean-Jules lui dit, oui, c'est une vieille voiture qui a appartenu à Madame de Hautebord. Une voiture unique qui a été faite spécialement pour elle, avec un moteur de voiture de course, mais qui commence à être fatiguée maintenant. Madame de Hautebord a disparu, malheureusement, sa famille aussi, au cours de la catastrophe du 6e continent. Comme elle avait laissé sa voiture, je l'ai rachetée. J'étais très ami avec la famille, surtout avec son fils Charles, qui en fait n'était pas son fils. Enfin, c'est une vieille histoire. Le trajet est long, parce que la voiture ne roule pas très vite, malgré son moteur qui fait beaucoup de bruit. Cliff a un peu mal au corps et a envie de vomir. L'odeur de la voiture, de cuir, mélangée à l'alcool, l'essence, et puis tous ces virages. Il a hâte d'être arrivé,
ne fait pas attention à ce que dit Monsieur de Georgiou, qui leur parle des hautes bords, des gens soi-disant très bien. Enfin, ils arrivent à Chamonix, la gare, et la voiture va s'arrêter devant la gare. Ouf, pour Cliff, qui est tout blanc. Une sorte de voiture, le chauffeur prend les bagages. Georgiou leur dit, je vais vous accompagner jusqu'au votre train. Et ils entrent dans la gare. Il y a du monde, beaucoup de gens habillés en montagnard, alpinistes, gens, touristes ploucs. Ils ont des sacs à dos et surtout des cannes. Oui. Pour eux, faire alpiniste, il faut une canne, comme acheter dans les magasins Bazar Ploucs, cartes postales et chalets, miniatures pour buffet, etc. De gens vont au guichet pour prendre leur billet. Ceux de Georgiou les suit avec le chauffeur qui porte les bagages. Après avoir attendu, c'est à eux. Georgiou dit à Cliff, je vais vous payer le voyage. Cliff lui dit, mais Georgiou, c'est normal, grâce à vous, je vais gagner des droits d'auteur. Il dit le guichetier, deux places pour vente tour au Pays de Loire. Première classe, merci. Le guichetier regarde sur son ordinateur. Il n'a jamais entendu parler de ce pays. Une fois qu'il a vu, il donne le prix des deux places et première place. Le Georgiou donne sa carte et son pouce. Le guichetier tend les billets. Il regarde le billet et dit, attention, vous avez deux fois à changer de train. Une fois à Lyon pour prendre celui de Paris et une fois pour prendre votre train. Il entend le billet. Merci. Regarde sur le ticket, le train pour Lyon et Coquille 2. Ils y vont. Vient tout juste d'entrer en gare. C'est un vieux train à vapeur. Le train s'arrête. Il trouve un wagon de première classe, entre dans un compartiment vide. Le chauffeur le met les bagages, son porte-bagages. Georgiou leur dit, au revoir messieurs, nous vous reverrons sûrement. Moi j'habite Lyon, mais je suis trop à Paris. Je crois que Paris vous attend. Et il les quitte. Les deux garçons s'installent, l'un en face de l'autre. Il lui dit, il est étrange, ce vieux. Mais il nous a payé nos billets. Il lui dit, tu vois, je te l'avais dit, qu'il fallait se méfier de lui. Il lui dit, vous avez payé le voyage, c'est gentil. Il lui dit, je ne le dis pas non. Mais même comme ça, ça nous fera un peu d'argent, d'avance. Eh. Ils arrivent tous deux.
Bon, on les mange, les sandwichs.
Là, je l'avais dit. Je savais.
Et le train se met en route. Le compartiment reste vide. Cliff dit, ils ont passé de bonnes vacances. Nous n'avons pas rencontré de fille. Il demande, tu le regrettes? Il lui dit, oui, peu. J'aurais aimé, mais je n'ai jamais. Didier lui dit, moi, ça ne me gêne pas du tout. Enfin, pour le moment. Je veux, c'est
vivre avant. Plus tard, les filles. Comme dit mon Carlin, il y a un temps pour les garçons, les amitiés, et puis un temps pour les biches. Enfin, ne dis pas vraiment ça, mais je ne veux pas te gêner. Le train file, il se détend. Cliff a plus mal au corps. Il est près de la fenêtre et voit défiler le paysage et dit « J'arrive pas à croire que c'est déjà la fin des vacances, qu'il fait encore si beau. » Didier lui dit « Ma mère va faire une scène parce que je ne l'ai pas écrit. » Cliff lui dit « J'aime pas écrire. » Et dire quoi ? Si on dit que l'on est heureux, elle sera triste que je sois heureux loin d'elle. Et si je lui dis que ça ne va pas, elle va se faire du souci. Le trajet est long, pénible, parce que le train fait omnibus. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la Savoie, il fait de plus en plus lourd. Les deux garçons sont allés au wagon de restaurant pour dîner et ont pris des bouteilles d'eau. Dans la nuit, le train arrive, garde la part due à Lyon. Il fait nuit, l'air est lourd, très lourd. Il y a du monde sur les quais. Des gens mal habillés, sales, avec des baluchons. Les deux garçons sont sortis du train avec leurs valises, vont prendre le train qui va les mener à Paris. Ils suivent la foule. Beaucoup d'hommes en noir sur les quais qui font la police. Ils sont armés de fusils et ont un ordinateur portable pour les cartes d'identité. Ils arrivent enfin vers le train qui va les mener à Paris. Vite, ils montent dans le wagon de première classe. S'assoivent l'un à côté de l'autre. Le wagon est libre. Les deux garçons sont fatigués. L'air, la fumée les incommode. La porte du compartiment s'ouvre et voient un petit vieux tout maigre à cheveux blancs épais. Tête osseuse, yeux qui pétillent. Il porte un costume gris taché, une chemise sale grise, une vieille cravate rouge, large, au moins des années 1970. Il porte à la main un sac plastique tout pourri, Fnac. Ferme la porte derrière lui, avec difficulté, leur dit « Bonjour, je m'appelle Pierre Marx !» et s'assoit en face d'eux. Les garçons font la grimace parce que Pierre Marx a une odeur bizarre. Enfin, le train se met en route. Le vieux monsieur leur dit « Enfin, ouf, je vais à Paris parce que j'en ai marre de la nounou qui vient constamment chez moi. Sans me le dire, elle m'a même fait battre par mon frère. Je vais à Paris, c'est pour participer à la nouvelle émission, la nouvelle star pour M6.
je me présente toujours au jeu des émissions. Je vais leur chanter un chant spirituel. C'est un chant religieux que je chante avec la chorale de Monsieur Achille qui est mort, la chorale du lycée du Parc. Je suis aussi animateur à Radio C. Mais là, ils sont de gauche et moi je suis de droite. Mais je dis ce que je veux parce que j'ai le droit de vivre. Mais ce salaud de Robert, il est de gauche et ne veut pas. Il a un fils, un petit Mimi, très gentil, le petit François. Je l'aime celui-là. Oh là là! Et vous, mes Mimi, qu'est-ce que vous faites? Les deux garçons se regardent. Ils trouvent Kermit bizarre et rigolo. On dirait un personnage de dessin animé. Il lui dit, on va à l'école et on est au lycée. Kermit lui dit, et vous êtes de gauche, comme les jeunes. Il lui dit, non, pourquoi? Et Kermit continue à parler. Il parle de son petit village, de sa fête, de son émission à l'écoute du monde. Tout en parlant, il tapote la jambe de Cliff qui se marre et fait de l'œil à Didier, qui lui est furieux. Il aimerait, c'est enlever la main de Kermit de la jambe de son ami. Puis, les garçons commence par être fatigué de ce vieux qui parle et même chante. Il ne peut pas s'endormir. Dans la matinée, ils sont allés au wagon restaurant prendre leur petit déjeuner. Kermit les a suivis. Il est assis à leur table. Il leur a parlé de son émission et de son ami Ava. Un bon petit déjeuner avec café au lait, croissant, confiture, jus d'orange. Kermit a pris comme eux, mais au moment de payer, il a oublié sa carte. Alors Cliff a payé son petit déjeuner. Et le trajet a continué. Le voyage se passe dans un paysage triste. Au fur et à mesure que l'on approche de Paris, c'est lugubre. La banlieue de Paris, c'est HLN, zone industrielle, avec hangar, camion.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.